Salut tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour notre rendez-vous sur l'action communautaire autonome ici dans la Nodière. Vous dire à quel point je suis content de revenir en direct. Les quatre dernières émissions avaient été préenregistrées. Là, je suis de retour dans le studio. On va vivre ça avec vous à 22h. Je peux pas passer sous silence la semaine dernière où nous étions 10 000 personnes pour revendiquer haut et fort devant l'Assemblée nationale du Québec. C'était vraiment très impressionnant d'être tout d'abord autant de personnes devant l'Assemblée nationale du Québec, mais de voir aussi le mouvement communautaire autonome se fédérer autour des revendications. Et pour dire, un rassemblement de cette ampleur-là, ça datait de déjà 10 ans. En 2016, on était 5000 personnes à avoir cerné l'Assemblée nationale. Quand on double ce nombre-là en l'espace de 10 ans, ben ça nous permet de voir que finalement, les enjeux ont pas été entendus, ou du moins, ils n'ont pas été adressés. Et comment dire, ces moments-là, vous pouvez le voir comme citoyenne, citoyen, peut-être pas engagé dans la cause, vous avez peut-être pas suivi le mouvement de grève communautaire debout. Ben, qu'est-ce que ça donne d'être autant de personnes devant l'Assemblée nationale? Ben, un, c'est de faire parler de nous dans les médias, et c'est ça qui a été surprenant dans les deux dernières années. Puis, pour tenter, des fois 10 000 personnes, ça peut quand même être flou. Ben, c'était 150 autobus qui partaient des quatre coins du Québec pour amener des gens devant l'Assemblée nationale. Des artisanes, des artisans communautaires autonomes, des partenaires, des syndicats. On a vu vraiment un mouvement fédérer l'action communautaire autonome et dire on n'en peut plus des conditions actuelles, autant en termes de financement à la mission globale, mais autant pour tout ce qui est la justice sociale au Québec. On l'a vu dans les derniers mois, ce virage à droite, on veut limiter les droits. Ben, quand on était devant l'Assemblée nationale, c'est tous ces discours-là qui nous portaient vous dire à quel point c'était incroyable. Maintenant, on est presque déjà à une semaine plus tard. La ministre de l'Action communautaire et le gouvernement n'ont pas répondu à nos demandes. C'est décevant même ce qui a été dit depuis par le gouvernement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de nouvel argent et qu'il y aurait un plan dans 2 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a une prochaine grande action pour continuer à se faire entendre. Et ça, c'est le dimanche 12 novembre. Donc, ça s'en vient dans quelques jours à Drummondville, devant le congrès de la Coalition Avenir Québec, où on va apporter vraiment notre table de négociation afin que la prochaine première ministre ou le prochain premier ministre s'engage à venir négocier avec les représentantes et les représentants des organismes communautaires autonomes. En lien avec ce que je viens de vous raconter, la question de la semaine s'adresse cette fois-ci aux participantes et participants du Rassemblement communautaire à bout à Québec. C'est quoi votre plus beau souvenir? Donc, vous avez toute la semaine sur Facebook pour aller y répondre. Et là, ben pour notre émission aujourd'hui, je reçois en studio Benjamin qui vient d'Action Logement La Nodière. Bienvenue Benjamin à l'émission.
Bonsoir Hugo, merci de me recevoir.
C'est un grand plaisir. J'aime ces moments-là de rencontre où on va prendre le temps tout d'abord de placer, mais t'es qui toi Benjamin? C'est quoi ton parcours en action communautaire autonome? Et c'est de même qu'on lance l'émission. J'aimerais savoir qu'est-ce qui fait que tu as envie d'être un des artisans dans ce grand mouvement-là?
Ben, comme tu peux l'entendre à mon accent, je viens pas d'ici. Là. Fait que moi, j'ai rencontré le milieu associatif en France d'abord. Là. C'était d'abord par un groupe qui s'appelle le Secours Populaire Français, qui faisait autant la distribution de denrées alimentaires comme une food bank. Il y avait un comptoir vestimentaire, il y avait de l'intervention qui se faisait, puis on pouvait être assez polyvalent. Fait que ça a été ma première entrée dans ce qui peut ressembler à l'action communautaire autonome. Là. Après, quand je suis arrivé au Québec, mon premier contact, ça a été de travailler en maison de jeunes, un petit peu plus haut là, à Saint-Michel-des-Saints, à la maison des jeunes du Nord. Fait que je suis resté un an, c'était un contrat de un an là. Fait que j'ai tout découvert l'action communautaire autonome à ce moment-là, les assemblées générales, le rapport annuel, les demandes de subventions.
Le PSOC,
c'est ça là. Puis surtout, j'ai eu ben du fun à travailler avec les jeunes, tu sais, comme de répondre à leurs besoins. Puis aussi, on avait une petite équipe là, mais qui s'adaptait beaucoup là aux besoins 80% des jeunes. Donc, tu sais, on avait une réalité de jeunes qui sont fermés vers 20h, 21h. Et il y avait beaucoup de jeunes qui repartaient chez eux sans avoir mangé, là, par exemple. Fait que, tu sais, on a monté tout un programme d'éducation aussi, à la saine alimentation avec eux. Bon, saine... Parfois là, c'était à voir, mais on y allait aussi avec leur envie et leurs besoins. Là. Mais on partageait beaucoup de moments, on faisait beaucoup d'activités, c'était assez libre. Là. Puis après ça, moi j'ai souvent besoin d'un grand désir de liberté. Là. Fait que je suis parti vers le travail de rue.
Okay.
À ce moment, j'avais pas encore une formation d'intervenant psychosocial. Ça a été un peu par hasard que je suis tombé dedans. Là. Fait que là, j'étais revenu à Montréal et je travaillais à un organisme qui s'appelle l'Entrejeunes de Mercier-Est. Là, je les salue si jamais ils m'écoutent. Là. Donc, j'ai fait ça pendant 5 ans. J'avais un mandat itinérance et prévention de la toxicomanie. Fait que j'ai vu. Je suis arrivé en poste là. En 2019, donc juste avant la pandémie, là. Puis j'ai vu les besoins là s'accroître dans ce quartier qui est aussi le quartier où j'habitais, dans Hochelaga-Mercier-Maisonneuve, avec de plus en plus d'itinérances qui étaient d'abord cachées puis qui est devenue de plus en plus visible, les besoins qui étaient pas répondus au niveau du logement, au niveau des besoins de base comme les besoins alimentaires. Là. Donc petit à petit, j'ai voulu en fait remonter un peu la chaîne alimentaire, t'sais, ce que je voyais beaucoup, puis j'ai rencontré des centaines de gens, puis c'était toutes des parcours vraiment différents qui les avaient amenés à la rue ou proches de la rue. Là. Mais ce qui revenait très souvent, c'était des problèmes dans le système de santé. On parle beaucoup de santé mentale, mais il y avait aussi l'accès à la santé physique pour des besoins qui auraient dû être répondus, des opérations qui finissaient sur des listes d'attente interminables, bon, des personnes précaires qui pouvaient pas te rejoindre après par le système de santé, fait que ça embarquait avec la consommation parce que on sentait moins la douleur, puis finalement d'autres problématiques arrivent au bout des années, non? Puis l'autre question, c'était la question du logement, qui revenait extrêmement souvent. Là. Évidemment, quand on se retrouve dans la rue, c'est qu'on n'a pas de logement. Là. Puis il se trouve que j'étais aussi militant pour le droit au logement depuis 10 ans dans le même quartier. Fait qu'il y a eu un poste qui s'est ouvert à un comité de logement dans le quartier. J'étais préposé à la lutte contre les évictions. Fait que ma job, c'était quand notre service d'aide aux locataires se retrouvait avec des adresses, des noms de propriétaires qui revenaient systématiquement... On m'envoyait sur place. Fait que là, je faisais ma petite enquête. C'est qui le propriétaire? C'est qui se cache derrière la compagnie à numéro? Est-ce qu'il y a des dossiers qui ont été ouverts au TAL? Puis après, j'allais cogner aux portes, parler avec les locataires, descend tout le monde en bas, dans la cour ou dans le hall d'entrée. On jase, puis comme... C'était vraiment une espèce de mix, puis c'est le plus beau mix qu'on peut avoir là dans l'intervention entre l'individuel et le collectif.
Ouais, c'est ça, c'est partir de l'individu puis de ramener à une situation qui touche tout le monde, donc exact. Ça amène le collectif.
Exact, puis tu sais, un des gros bâtons qu'on a dans les routes, dans les comités de logement, c'est que le droit au logement est un droit individuel. On parle juste de ta relation avec ton propriétaire, on parle pas de tes voisins, on parle pas de ton bloc, on parle pas de ceux qui sont dans les blocs d'à côté. Là. Puis on arrivait à faire des liens entre les gens dans un même bloc, mais aussi parfois interbloc. Il y en avait comme sur une rue, on avait réussi à rassembler 4 blocs avec tout un système de communication pour qu'ils se refilent les infos et ça quand ils avaient un problème avec leur propriétaire. Puis c'était d'y aller par petites victoires aussi là, de dire bon ben on a réussi ça, est-ce qu'on peut aller une coche de plus là. C'était beaucoup aussi d'achaler le conseil d'arrondissement. Je pense qu'ils m'ont vu débarquer à quasiment tous les mois avec des locataires pour nous opposer à des projets qui auraient pas dû être passés là, puis d'interpeller évidemment les médias, les journalistes là. Et finalement, je voulais me retourner dans Lanaudière et donc là, depuis le mois de septembre, je suis organisateur communautaire en co-gestion à Action Logement Lanaudière.
Wow, beau parcours, puis c'est une richesse, tu sais, parce que tous les liens que t'as fait entre ces expériences-là, puis d'arriver à la coordination, ben à la co-gestion d'un organisme comme Action Logement Lanaudière, on voit la flamme qui t'habite, hein, dans cet espace collectif-là. Puis c'est le fun parce que tu viens montrer c'est quoi les formes de défense collective des droits, de passer du besoin individuel à le ramener à plusieurs personnes, probablement d'éducation populaire. C'est pas tous les gens qui comprennent leurs droits en lien avec le logement, donc il y a tout cet aspect-là également. On a les deux pieds dans l'action communautaire autonome avec ton parcours. Et là, j'ai une petite question qui me brûle les lèvres.
Vas-y.
Là. On n'arrête pas de dire, puis là, c'est parce que tu m'as ouvert la porte d'entrée de jeu, que l'accueil est unique au monde. Hein? Le financement, la mission, la reconnaissance de l'État. C'est quoi les différences que tu vois avec la France et son milieu associatif?
Honnêtement, je connais pas assez. Comme ça a vraiment été dans ma jeunesse que tu sais, je suis arrivé début vingtaine là au Québec là. Fait que j'ai pas assez tourné. Tu sais, j'étais bénévole ou j'étais membre des organisations. J'ai jamais travaillé dedans là. Fait que je connais très très mal là. Je te redirigerai vers. Il doit y avoir quelques universitaires là qui sont capables de faire des comparaisons Europe.
Un jour, Canada. Je vais avoir mes réponses parce que je me suis toujours tourné vers le Canada. J'ai été dans des symposiums où on parlait des OBNL ailleurs que dans le Québec. Fait que j'ai comme une vision, mais je sais qu'il y a un milieu associatif, mais je suis comme, ah, c'est quoi les différences? Puis justement, on se targue là, d'un milieu unique au monde avec l'ACA. Là. Des fois, je suis comme, ah, je suis comme curieux.
Mais il y a des choses, tu sais, comme pour le travail de rue qui était la profession que j'ai le plus longtemps exercée là dans l'ACA. Oui, il y a des grosses différences avec en France. T'sais, on a beaucoup plus une vision holistique, là, une vision beaucoup plus globale des enjeux de santé, des enjeux sociaux. Là. Ça, par contre, c'est quelque chose d'assez unique là, qu'on a au Québec. Là.
Ok, intéressant. On s'en va à musique et on revient, on va parler d'Action Logement Lanaudière tout de suite après la chanson.
Y'a rien de plus important que l'amour qui nous rassemble. Rien qui traverse le temps si bien que la vie ensemble. Les tristesses, les chagrins, on sait que ça passera. En famille, entre amis, depuis toujours, c'est comme ça. À chaque fois qu'on le peut, nous autres, on se prend dans nos bras. Entre l'Abitibi pis le lac Saint-Jean, y'a un petit village où on en a vécu tant. Des feux dans le pit de sable pis toutes les niaiseries au petit parc. Quand on y repense, c'était vraiment pas plate. Là, on n'est plus des enfants, oh non. On n'a pas perdu de temps pis on est devenus parents. Ces petites âmes sont arrivées ici, on s'entend. Qu'on partage encore plus de beaux moments. Et rien de plus important que l'amour qui nous rassemble. Rien qui traverse le temps si bien que la vie ensemble. Les tristesses, les chagrins, on sait que ça passera. En famille, entre amis, depuis toujours c'est comme ça. Chaque fois qu'on le peut, nous autres on se prend dans nos bras. On a besoin de demander au ciel. L'amour-là soit éternel. Ce qui nous tient, c'est plus fort que tout. On a compris ça depuis longtemps. Que la vie, ça se passe entre nous. Y'a rien de plus important que l'amour qui nous rassemble. Rien qui traverse le temps si bien que la vie ensemble. Les tristesses, les chagrins, on sait que ça passera. En famille, entre amis, depuis toujours, c'est comme ça. À chaque fois qu'on le peut, nous autres, on se prend dans nos bras.
On est de retour en studio avec Benjamin. À travers ton parcours, je le disais juste avant qu'on parte en musique, on a les deux pieds dans l'action communautaire autonome, puis je peux dire qu'on a les deux pieds aussi dans la défense collective des droits. C'est votre mission à Action Logement Lanaudière. Veux-tu nous en parler un petit peu dans tes mots, là, si on veut expliquer qu'est-ce que vous faites? C'est quoi la mission de l'organisme?
Ben, comme tu l'as dit, là, c'est de la défense collective des droits des locataires qu'on fait là. Fait que ça se divise surtout en deux volets. Fait qu'il y a la défense des droits individuels, si je schématise un petit peu. Donc, du côté, il y a un côté individuel, puis après, il y a la défense de droits collectifs. Fait qu'au niveau de l'individuel, c'est des locataires qui vont nous contacter. Généralement, c'est par notre numéro de téléphone. Ils vont nous laisser un message, on va les rappeler, puis ils vont nous exposer leur situation. Donc, s'ils ont un problème dans leur logement, s'ils ont un problème avec leur propriétaire ou leur gestionnaire ou qui s'interrogent sur leurs droits et obligations, on va pouvoir faire de l'information juridique. Fait qu'on n'est pas des avocats, on peut pas les conseiller. Fait que c'est-à-dire, on peut pas dire fais ci, fais ça, ou je te conseille de faire ci, je te conseille de faire ça là. On va regarder un peu plus c'est quoi tout le panel de possibilités qu'ils peuvent faire. Et là-dedans, ils vont choisir, puis on va les accompagner un petit peu. Quand je dis qu'on va les accompagner un petit peu, c'est par exemple de rédiger des documents comme des mises en demeure, aussi ouvrir un dossier OTAL. Parfois, on les accompagne physiquement dans certains cas. On va pouvoir faire, on a un suivi de dossier avec les personnes. Fait qu'on va faire tout un suivi. Là. Puis de l'autre côté, on va avoir la défense des droits collectifs. Fait que ça, c'est comme une variété d'activités là qu'on propose. Donc, en ce moment, en fait, à partir de demain, on relance de façon vraiment intensive tout ce qui est éducation populaire. Fait que tous les jeudis à 13h30 dans nos locaux. Donc nos locaux sont en 144 rue Saint-Joseph à Joliette. Pour ceux qui connaissent, c'est le col
Les carrefours des organismes.
C'est ça, juste en face du palais de justice. Donc tous les jeudis, on va avoir soit des cafés locataires qui sont comme des cafés rencontres, où on peut venir juste souffler entre locataires, parler de ses problèmes, venir s'informer sur nos droits, et écouter les autres, c'est quoi les problématiques qui ressortent, faire du lien, se sentir moins seul, là, briser l'isolement, là, c'est comme une de nos missions, là. Et là, de façon en alternance, on a les communautés mob. Donc, communauté mob, c'est beaucoup plus le côté punchy, là, c'est-à-dire on a des mobilisations à lancer où on veut en créer des nouvelles. Fait qu'on se réunit, on jase, on s'organise, puis on fait de quoi là par la suite. Là. Aussi, on se déplace, que ça soit dans les écoles, que ça soit dans les organismes. On donne des ateliers d'éducation populaire, on donne des ateliers sur les droits et obligations des locataires. Donc, on va expliquer un petit peu plus c'est quoi que les locataires peuvent faire dans telle et telle situation, c'est quoi les droits de base, parce qu'on s'entend, le droit au logement est un droit qui est compliqué, en fait. D'ailleurs, je vais vous l'annoncer, il n'y a pas de droit au logement au Québec. Il y a une codification à travers le Code civil, à travers 152 articles de loi sur les relations propriétaires et locataires, mais le droit au logement n'est pas reconnu. Puis ça, c'est une de nos demandes.
Oh.
Oui, c'est ça. Dans la Charte des droits et libertés, il y a quand même quelque chose sur la reconnaissance de certains droits, comme le droit à la santé, le droit à l'éducation, mais par contre, le droit au logement, ça en fait pas partie. Fait que se loger, avoir un toit sous sa tête, c'est pas un besoin essentiel apparemment, là. Fait que nous, on demande à ce que ça change, puis on est en train de monter une grande coalition large avec nos regroupements du FRAPRU et du ROCLAC, avec tous les acteurs de la société civile qui veulent embarquer, entre autres pour demander que ce droit se retrouve dans la Charte des droits et libertés. C'est trois petits mots qui changeraient beaucoup de choses.
Ben oui, tellement. Puis honnêtement, je suis pas spécialiste de chacune des situations, mais que tu dis ça, que c'est pas dans la charte, là.
Non.
On dirait que ça m'estomaque. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est pas là. Mon Dieu, me semble que c'est primordial, hein,
ben, le droit et le logement est une marchandise, en fait, dans notre société, non? Fait que c'est peu importe les besoins auxquels ça répond, avant tout, ça reste de la propriété privée et une marchandise, donc un bien à faire fructifier. Puis c'est ça le problème. Puis si vous voulez régler les problèmes, abolissez le logement en tant que marchandise. Voilà, on peut rêver là, un petit peu. C'est pas demain la veille, on aura plein d'autres steps là, en attendant. Là.
Ouais, mais minimalement de faire la reconnaissance de ce droit-là. Quelqu'un là qui a envie de contacter Action Logement Lanaudière, parce que c'est pas toujours facile hein, d'aller vers un organisme communautaire. Comment il fait? C'est quoi la meilleure façon d'entrer en contact ou d'aller vous voir? Est-ce que c'est de se présenter au col? Est-ce que c'est de prendre un rendez-vous? Comment ça se passe là d'aller à Action Logement?
Ben, ils peuvent directement venir dans nos bureaux. Il n'y a pas forcément besoin d'un rendez-vous. Si on est occupé, on jaserait un peu avec la personne puis on donnerait un rendez-vous là. Sinon, ils peuvent nous contacter au 450-394-1778. 18, puis on rappellera la personne, ou aussi par courriel, on répond pareil. La personne peut se présenter aussi à toutes les activités. On publie maintenant un calendrier de nos activités mensuelles, non ? Fait qu'elle a juste besoin de se pointer. Tout est gratuit, il n'y a pas besoin d'inscription, ou alors c'est noté quand il y a besoin d'inscription. C'est souvent quand on va faire des manifestations qu'on a besoin de réservation pour l'autobus. On a bien connu ça dans les dernières semaines.
Absolument. Puis autre élément, puis vous devez tellement vous faire poser la question souvent, mais je pense que c'est quand même important de le dire, quelqu'un qui est en recherche de logement, c'est pas vers vous qu'il va
non,
se diriger.
En effet, il y a des services, le SARL, le service d'aide à la recherche de logement, qui va répondre un petit peu plus à ces besoins-là. Les personnes peuvent quand même nous lâcher un coup de fil, hein, puis on va leur donner leur numéro, mais nous, on fait pas la recherche de logement.
Et je pense que c'est quand même important parce que oui. À un moment donné, je pense qu'on sait plus à quelle porte frapper ou à quel numéro de téléphone appeler quand on est à la recherche. À travers toute la compréhension que vous avez de cet enjeu-là, à ce moment-là, dans l'approche globale, vous allez amener les personnes vers les bonnes références pour être accompagnées.
C'est ça, ouais.
Super. On continue en musique et après ça, ben, on va parler justement des enjeux en lien avec le logement.
CFNJ. Get a girl, get a boy. One plus one, take a mite down to the shore. One plus one, give you all and give some more. One plus one, let the music free your soul.
Yeah, bunks and rungs.
Swing with me through the light. Home if it's just one night. Home if it's just one night. Oh, we live for the beat. Baby, you're all I need. Baby, you're all I need.
Oh. Tous les sons qui vont éclore.
One plus one.
De nos âmes multicolores.
One plus one.
Face à l'ironie du sort.
Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer. As-tu ta carte?
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Saint-Ambroise de Kildare, Garage Omer Grégoire, Dépanneur Kildare, Dépanneur Proxy Extra, Dépanneur au Petit Bourgeois Bonissoir, à Sainte-Béatrix, boulangerie Sainte-Béatrix. Le dépanneur Lac-Vallée enregistré. À Saint-Ligory, dépanneur des Rapides. À Lanoraie, dépanneur 5 Montagnes. Dépanneur La Fortune et Cille. Family Prix Julie Bourgeois. À Saint-Thomas, Arnois Proxy, Saint-Thomas. Family Prix Santé, Coulombe et Parents. Et à La Valtrie, dépanneur Buissière et dépanneur Bonissoir sur la rue Notre-Dame. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Ça ici, ben, c'est mon salon.
C'est du style antique, ça, hein?
Oui, on peut dire ça, oui.
C'est un fauteuil de quelle époque, ça?
Ben ça, en fait, c'est de l'époque de mon cégep. 92-93, ces coins-là, là.
Vous êtes vraiment dû pour changer votre mobilier? CFNJ et Ameublement SJ Dion vous offrent l'occasion parfaite pour ça. Allez vous inscrire à cfnj.net et dites-nous quelle pièce chez vous mérite de la nouveauté et pourquoi. Meubles, matelas, électroménager, qu'est-ce que vous aimeriez changer? Du lundi au vendredi à 8h15, l'équipe de Lanaudière AM appelle une personne qui devient finaliste pour le tirage du 11 avril à 16h. 2 500 $ à dépenser chez Ameublement SJ Dion.
Dis, on s'inscrit?
Concours réservé aux membres. Pour les détails du concours ou pour devenir membre, visitez cfnj.net.
9-9-1
C'est ça, la CA.
C'est quoi, la CA?
C'est Nadia, qui choisit sa sécurité et trouve refuge dans une maison d'hébergement.
Émile, qui traverse une tempête un peu sombre et qui découvre un collectif en santé mentale, où il peut juste être, sans jugement.
Karine, nouvel arrivant, qui apprend à naviguer sa nouvelle vie grâce à un organisme d'ici.
Pascal, qui reçoit un panier alimentaire cette semaine pour que ses enfants puissent manger à leur faim.
Peut-être que c'est quelqu'un que tu connais. Un ami, un voisin. Toi.
Une personne sur cinq franchit les portes d'un organisme communautaire autonome, Lanaudois.
Et on est plus de 10 000 artisanes et artisans à faire autrement.
Par, pour et avec les personnes concernées. Pour que chaque histoire en soit une de résilience, de reprise de pouvoir, de solidarité.
Aujourd'hui, fais partie de celles et ceux qui transforment la société.
Rejoins la campagne, c'est ça la cas.
Troquel.org/mob
On est de retour à l'émission C'est ça la CA. On est toujours avec Benjamin d'Action Logement Lanaudière. Je t'amène sur un terrain que je vais dire un peu épineux. Hein. Il y a une crise du logement, on en parle de plus en plus. Je dirais depuis plusieurs années, vous êtes au front, je dirais, dans cette crise-là. Comment tu la décrirais, la crise du logement au Québec, Benjamin?
Ben en fait... Je répondrai à ta question par une autre question. La crise pour qui? Parce que j'aimerais citer un chercheur qui s'appelle Ricardo Trajano. Puis lui, sans jouer sur les mots, il disait que peut-être qu'on ne pourrait pas appeler ça une crise du logement. Là. Parce que quand il y a une crise, par exemple comme une crise géopolitique, comme une guerre, là, tous les acteurs d'une société sont touchés. Que vous soyez chômeur, agriculteur, prof, peu importe, tout le monde est touché dans la société. Si on regarde en ce moment la société québécoise, les promoteurs immobiliers, ça va bien pour eux. Les propriétaires, ça va bien pour eux. Les municipalités, ça va bien pour eux parce que il y a toutes les taxes qui sont rapportées avec la construction. Là.
Beaucoup de développement aussi.
Beaucoup de développement qui rapporte beaucoup de taxes. Les condos, c'est vraiment très intéressant pour les municipalités pour se renflouer. Là. Par contre, il y a qu'un seul acteur en fait qui paye pour tout le monde. Là, c'est les locataires. Fait que sans vouloir dire il n'y a pas de problème avec le logement, on peut le remettre en question. C'est une crise pour qui? Ce qui fait que il y a une crise en ce moment, c'est beaucoup des choses en fait qui datent des années 90. Fait que on va revenir un petit peu dans le temps, mais très simplement, il y a eu un arrêt du financement du programme de logements sociaux par le fédéral dans les années 90, et depuis ça se dégrade. En ce moment, on a quasiment plus une construction de nouveaux logements sociaux. Là. En fait, le gouvernement essaie tranquillement de le laisser tomber là pour le remplacer par du abordable. Je rentrerai pas là-dedans, mais si vous entendez des annonces pour dire va y avoir des constructions de logements abordables, c'est pas abordable par rapport à ce qu'il y a dans vos poches. C'est abordable par rapport au, de plus en plus par rapport au coût de construction du marché privé. Là. Okay. Fait qu'on n'est pas en train de résoudre le problème. Là. L'autre côté, c'est la financiarisation. Puis ça a l'air un terme vraiment nébuleux. Je ne vais pas expliquer comme tous les tenants, les aboutissants. Mais finalement, on pourrait intervenir dessus en changeant quelques lois fiscales, en fait, deux lois fiscales. Et d'un seul coup, il y aurait plus un intérêt pour le gain qui se rabat sur le logement. Donc, moins de pression sur les locataires, moins de pression pour faire plus de profits, toujours plus de profits sur le dos des locataires, moins d'évictions, etc. Si on pouvait encore ajouter quelque chose, c'est que il n'y a pas de contrôle réel des loyers, non? Fait que les loyers augmentent de façon disproportionnée. On parle les loyers ont augmenté de 60% depuis 2018. Mais on s'entend que les salaires ont pas augmenté de 60%.
Sinon,
on serait pas mal au courant, puis on serait très content aussi.
Oui, c'est un plaisir.
Ça, c'est un peu tout ce qui constitue les problèmes. Il y a aussi d'autres choses là qu'on voit nous sur le terrain. C'est au niveau de l'accès à la justice. Rien que déjà, le droit au logement qui n'existe pas encore, mais si on se réfère aux articles du Code civil, c'est pas compréhensible par la majorité des gens. Il y a plein de mots qui sont employés dans le vocabulaire courant qui ne veulent pas du tout dire la même chose quand c'est dans les articles de loi. Fait que c'est difficilement compréhensible de comme, est-ce que ça s'applique à votre situation? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement, même si vous avez compris qu'est-ce que dit l'article du Code civil? Fait que nous, on est là un peu pour démêler tout ça, là, pour démystifier ce genre de situation là. Dire, ben, c'est ça que ça veut dire, c'est ça que tu peux faire. Après, en ce moment, le TAL, le tribunal administratif du logement, ce qu'on appelait avant la régie du logement, est complètement débordé. Il y a des gros problèmes avec ça, là. En plus, nous, on a une critique par rapport au traitement des demandes. C'est que les demandes qui viennent du côté des propriétaires sont passées en priorité. Par exemple, toutes les causes en non-paiement de loyer, puis on en voit de plus en plus, sont traitées à peu près dans les 3 mois. Si vous avez des problèmes de salubrité, ça peut prendre plusieurs années avant que ça passe devant un juge, non?
Oh, yeah.
Puis, c'est pour une première audience. Fait que parfois, ça peut être comme remis, puis remis. Non? Fait qu'au niveau de l'accès à la justice, c'est tout simplement déficient. Pour les locataires, l'aide juridique, il n'y a pas assez d'avocats d'aide juridique, c'est un processus qui est long, encore une fois, faut être bien organisé, puis c'est sûr que si tout allait bien dans sa vie, peut-être qu'on y arriverait à s'organiser à travers des dossiers avec des avocats, avec des audiences, etc. Là. Mais quand c'est dans son logement, quand on subit des dégâts d'eau, de la moisissure, c'est difficile d'avoir un espace mental pour se concentrer, pour montrer ça. Parfois, on a juste envie de partir de son logement, crisser son camp, puis aller trouver l'herbe plus verte ailleurs. En ce moment, l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Je suis désolé d'être porteur de mauvaises nouvelles, mais même si on prenait les bonnes décisions aujourd'hui, ça mettrait plusieurs années à se résorber, la crise.
OK. Donc, tu le dis d'emblée, on joue sur les termes logements sociaux, c'est ce qui est revendiqué actuellement.
Ouais.
Qu'on remette justement la priorité là et non pas les autres types de logements abordables, de logements.
Puis, pour bien expliquer c'est quoi les logements sociaux,
oui.
Donc, c'est vraiment les HLM, les coopératives d'habitation et les OSBL d'habitation. Là. De plus en plus, là, le gouvernement pousse pour l'abordable. Puis là, je vais peut-être vous parler du projet de loi 20 là, que vient de nous balancer le gouvernement. Pour le décrire de façon succincte, je pourrais dire que déjà, à la base, ça a été un projet de loi qui a été écrit sans consulter les parties concernées. Fait que forcément, qu'est-ce qu'on en attend? Pas grand-chose, mais je pense que c'était la Fédération des coops de Montréal qui a qualifié ça de torchon. Là, je me contenterai de dire que c'est un torchon pour pas être plus vulgaire. Là. Mais grosso modo, c'est une espèce de logique de bouc émissarial. Donc, on trouve des boucs émissaires. Il y aurait des gens, quelques 2000 ménages qui gagneraient trop dans les coops et les OSBL. Puis je te l'apprends, Hugo, c'est eux qui sont responsables de la crise du logement. Fait que des logements qui ont réussi à sortir de la pauvreté parce qu'ils sont dans le logement social, mais en fait, seraient punis parce qu'il y aura tout un système qui sera instauré de compensation comme des punitions pour gagner trop, pour finalement inciter les gens à partir. Bon, c'est une grosse atteinte au droit au maintien dans les lieux. Ils veulent instaurer un guichet unique aussi, puis tu sais, on devrait faire des chansons à répondre là au Québec là sur guichet unique. On devrait répondre fiasco automatiquement.
À chaque fois.
On a eu des exemples encore récemment. Là. Puis il y a une mécompréhension fondamentale du modèle des OSBL et des coops, ça ne réglera pas la situation. On pense que ça l'empirera. Il y a plein d'autres trucs qui sont glissés dedans, mais dont, justement, le remplacement de loyers modestes. Donc, quand on parle de loyers modestes, c'est qui correspond où on paye pas plus que 25% de ses revenus. Comme dans les HLM, pour le remplacer par du abordable. Mais le abordable n'est pas lié à la capacité à payer des locataires, mais lié au prix des coûts de construction du marché privé. Puis c'est pas des logements qui sont pérennes. Fait qu'on va pas les garder, ça va disparaître dans le temps. Fait que si on continue dans ce sens-là, ça va pas bien aller. Là. C'est pas comme pendant la pandémie, ça va mal aller. Non. Fait que nous, on demande un investissement massif dans le logement social. Non.
Ben, puis c'est parce que c'est encore une fois une conséquence de l'austérité. En fait, dans les années 90, austérité, on voulait résorber des déficits. Donc, on a décidé de couper où c'était moins important. Je dis ça, c'est pas ma prise de position, mais c'est la prise de position politique en disant on va investir moins dans le logement social ou on va laisser les provinces se débrouiller. Et là, ben plusieurs années, on voit l'impact où l'accessibilité est
oui. Là. Ouais, ouais. Puis il y a des pressions aussi là d'associations de propriétaires, justement pour ne pas que ça se fasse. Parce que quand il y a plus de logements sociaux, si on prend des exemples comme en Autriche, du côté de Vienne, il y a énormément de locataires. Puis qui dit locataire ne dit pas forcément des gens pauvres. Là, on a un peu cette image en Amérique du Nord que comme s'il faudrait réussir dans sa vie, faudrait être propriétaire.
Absolument.
Puis là, on va avoir des tas d'annonces du gouvernement, faciliter l'accessibilité à la propriété. Puis c'est pas forcément ça qui va résorber le problème. Ça, c'est plus pour avoir des votes là pour de la classe moyenne, mais c'est pas mal toutes. Si on veut plus de logements sociaux, ça veut dire aussi comme accroître ce parc locatif social qui est à peu près qui représente à peu près 10% des logements en ce moment là. Et si on a plus, ben ça ferait des pressions à la baisse sur les loyers, parce que si vous pouvez aller dans un logement qui coûte je sais pas $800 pour un 5,5 versus un 1800, vous allez à celui qui coûte le moins cher qui répond à vos besoins aussi.
Oui.
Fait que les loyers baisseraient là. Mais il y a des gouvernements qui sont très acoquinés avec les propriétaires qui ne veulent pas de ça. Puis, tu sais, j'aimerais faire une parenthèse là, parce qu'on parle beaucoup de la différence de revenus qu'il y a entre les ménages locataires et propriétaires. Mais la grosse, grosse différence, c'est par rapport au patrimoine. Fait qu'un ménage au Québec qui a plus que un logement, donc plus que sa maison, qui loue à des locataires, a environ un patrimoine de $1.7 million. C'est pas pauvre. Là, quand vous avez des propriétaires qui disent qu'ils rushent, ce n'est pas vrai, ils sont pas pauvres. Leur bâtiment prend de la valeur, parce qu'en ce moment, on est dans un marché spéculatif qui s'emballe.
Oui.
Fait que ça prend de la valeur. S'ils le revendaient demain, ils se feraient un beau pactole d'argent, peu importe combien ils l'ont acheté à l'origine, depuis combien de temps, là, peu importe. Là. Fait que ça, c'est une chose. Là. Puis aussi, les ménages propriétaires ont 20 fois plus de patrimoine que les ménages locataires. Fait que qui est pénalisé
énorme
dans l'histoire? On n'est pas tous dans le même bateau là-dedans. Non?
Absolument. Ben justement, on s'en va avec la chanson « Tenir debout » de Fred Pellerin à travers cette tempête-là.
CFNJ.
Ma tête soliloque sur la semelle de mes bottes. Quand elle se frotte au pavé des ruelles, on m'a dit que le doute, c'est le bon Dieu qui clignote, mais ma foi est fébrile comme une chandelle. La foule est ventriloque, à couvert on chuchote, c'est dans la pénombre que la lumière est belle. C'est dans la pénombre que la lumière est belle. Une nuit ou une vie cerne mes yeux déjà flous, au reflet vert de grise et cruel. Le sel des glaciers sur la couleur de mes joues, même si personne ne nous cherche querelle. Et la gorge qui rit et les mains dans la boue, c'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. C'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Défaite qui vaut toutes les victoires, quand nos propres désirs nous ensorcellent. Parfois l'homme se rachète en se servant à boire, je n'ai pourtant rien d'un criminel. Et Amélie qui demande si on rêve ou si on dort, c'est dans le silence qu'une réponse est belle. C'est dans le silence qu'une réponse est belle. Alors j'apprends à me tenir debout.
Puis j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre joue. J'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre joue. J'apprends à me tenir debout.
C'est vraiment palpitant de discuter de logement parce que même pendant la chanson, on continue à discuter, entre autres, de logement social, qui est quelque chose d'important à continuer à démystifier. Je te fais glisser vers l'autre conversation que je veux avoir avec toi, Benjamin. On est en pleine campagne, c'est ça, l'accueil, il y a le communautaire à bout. Hein, fait que donc, on sent qu'on veut faire rayonner, qu'on a besoin de se mobiliser en ACA. Quels sont les enjeux maintenant chez Action Logement Lanaudière? On sait qu'habituellement, ben, on parle évidemment du financement. Comment ça vous impacte concrètement cette situation-là, surtout aussi dans le mouvement de la défense collective des droits?
Ben, en fait, oui, c'est toujours le financement, là, le nerf de la guerre, là, et le problème qu'on a là. T'sais, comment ça se matérialise dans un petit organisme comme nous, là, on est que trois, là. C'est qu'on n'a pas assez de main-d'œuvre. Puis nous, on couvre toute Lanaudière. Donc les 58 municipalités de Lanaudière, il y a 150 000 locataires environ, là. Fait que, évidemment, on a du mal à répondre à tout le monde, là. T'sais, en ce moment, je vous dirais qu'on a à peu près 3 semaines de retard sur nos appels. On est dans la période des hausses de loyer, fait que ça c'est une chose, fait que ça brûle les équipes, on est fatigué. C'est comme moi, j'arrête pas d'enchaîner les journées de 10, 12, 14 heures. Là, j'espère que mon CA m'écoute pas là, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Mais c'est ça, c'est comme ça veut dire aussi des listes d'attente, des listes de rappels pour les locataires qui ont pas forcément la réponse en temps et en heure. On essaie de prioriser quand même en fonction des urgences et tout ça là, mais on n'y arrive pas toujours là. Après, il y a aussi le fait que ça nous surcharge au niveau de la recherche de d'autres financements là. Tu sais, il y a une grosse communication au niveau du gouvernement de comme diversifier, puis tu sais, comme personne n'est contre la diversité, fait que diversifier votre financement, fait que aller vers la philanthropie.
Je peux-tu faire une petite montée de lait?
Vas-y, j'en prie.
J'ai besoin de la faire parce que justement, on entend le gouvernement dire diversifier vos revenus, aller chercher de d'autres sources, parler aux fondations, penser à l'économie sociale, mais il y a une donnée qui est sortie récemment, c'est l'Institut québécois de la statistique qui a fait une étude sur l'action communautaire et l'action communautaire autonome. Et là, c'est un institut public qui nous dit que le gouvernement investit dans tous nos revenus qu'on va chercher 17,5 de financement à la mission globale. Je suis plus capable d'entendre ce volet-là de diversifier. C'est fait. Les organismes ont diversifié. La preuve, c'est qu'ils vont chercher 82,5% de tous les revenus. Et pourtant, la politique de reconnaissance de l'action communautaire dit que la partie du financement à la mission devrait être prépondérante. On peut s'obstiner sur ce mot-là, mais minimalement prépondérante devrait, selon moi, dire 50% plus 1.
Oui,
ça serait.
On s'entend.
Puis là, déjà, de passer de 17,5 à 50% plus 1, on passerait à quelque chose de plus porteur pour les organismes communautaires. Fait qu'en tout cas, parce que, puis je vais le dire, je pense souvent dans l'émission à partir de maintenant, parce que c'est une donnée probante et c'est ça, je pense qu'on peut pas diversifier à outrance. On a besoin d'un soutien pour réussir à réaliser les missions qui devraient être la priorité.
Oui, c'est ça. Puis comme pendant qu'on est en train de diversifier, moi, j'aurais presque envie de dire de quémander là, parfois des sous, là, c'est qu'on fait pas notre mission pendant ce temps-là. T'sais, nous, on est en co-gestion. J'ai passé, en plus, on était, nous, notre fin d'année financière au mois de décembre, juste avant la période de hausse des loyers. Et en plus, je suis allé chercher deux subventions. Est-ce qu'on va les avoir? Est-ce qu'on va pas les avoir? On ne sait pas, là, on le verra à l'avenir, on croise les doigts, là. Mais j'ai passé beaucoup de temps dessus. Puis ça, c'est des moments où je fais pas des ateliers avec des locataires. C'est à des moments où je ne réponds pas aux locataires non plus, là. Fait que c'est tout du temps perdu là-dessus. On nous demande aussi beaucoup de financer par le financement par projet, là. Fait que peut-être pour ceux qui nous écoutent qui savent pas c'est quoi la différence, c'est qu'à la mission, c'est que, grosso modo, je vais le vulgariser, c'est qu'on dit votre service, votre mission, la mission de votre organisme, globalement, il y en a besoin, fait qu'on vous finance pour effectuer cette mission. Le financement par projet, c'est qu'il faut trouver comme quelque chose de nouveau, quelque chose en plus, qui répondrait à un besoin nouveau. C'est sûr que comme tous les besoins ne sont pas créés comme tous les 6 mois, tous les 4 matins dans la population québécoise, c'est à peu près les mêmes qui s'intensifient plus ou moins, mais des nouveaux, il y en a pas tant que ça, là. Fait qu'il faut tout le temps créer des nouveaux projets. Puis il y a une espèce de mise en concurrence aussi là de tous les organismes, c'est que t'es, on le sait, parfois on postule aux mêmes subventions. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. C'est pas au niveau de la solidarité. Bon, je pense pas qu'il y ait de grosses bisbilles là, entre organismes. Là. J'ai rarement entendu ça, là. Mais c'est pas le fun de se mettre en concurrence les uns les autres.
Non, puis sans que ça crée nécessairement de compétition, c'est que ça met en lumière. Ah, toi, tu te présentes de façon plus sexy. Moi qui ai autant de besoins, mais là, j'ai peut-être pas les mêmes ressources marketing, mettons, pour aller chercher.
C'est ça.
Fait que, oui, c'est vrai que c'est pas une compétition directe, mais reste que ça fragilise quand même notre filet social qu'on tente de créer tout le monde ensemble.
Oui, puis tu sais, comme je suis pas en train de dire, c'est comme nous, si on a la subvention, je pense pas que les besoins auxquels on répond sont plus importants que celui, par exemple, d'un centre de femmes. C'est peut-être que moi, j'y ai passé une journée, l'autre personne y a passé comme 2 heures parce que c'est tout ce qu'elle avait pour se libérer pour faire cette demande de subvention.
Exact.
Fait que c'est assez injuste là comme comme système. En plus, il y a aussi les critères des bailleurs de fonds là, qui changent là. Tu sais, comme il y en a qui ont des critères différents, puis là faut tout le temps se réadapter là. C'est encore une fois, on y passe du temps, les redditions de compte se passent pas au même moment de l'année, fait que genre, à peu près tous les 3 mois, on est obligé de faire des redditions de compte. Ça se chevauche avec notre rapport d'activité, avec nos années financières, fait que c'est toute l'espèce de jonglage administratif qu'il faut faire là. Puis c'est un des motifs là d'épuisement là, je pense, dans les équipes.
Absolument. Puis c'est cette créativité là, tu sais, t'as dit du nouveau projet, c'est on nous demande tout le temps d'innover.
Puis on est déjà, tu sais, on innove déjà sur le terrain, mais c'est pas la même chose de comme tout le construire en avance, de te préparer un pré-budget pour les 3 prochaines années, puis finalement, oh, mais je l'ai pas, fait que tout ça a servi à rien un peu, tu sais, comme ça va dormir dans un tiroir, je vais peut-être le repondre, améliorer là une prochaine fois, puis peut-être, ah, oh, on sait pas, là, je l'aurai cette fois-là ou pas, non? Fait que c'est aussi là, tout du temps perdu là, là-dessus. Là.
Merci d'avoir pris le temps d'expliquer en tes mots cette différence-là entre le financement à la mission puis le financement par projet, parce que c'est une des réalités qui est importante pour le mouvement d'action communautaire autonome, puis d'avoir d'autres mots, d'autres exemples pour en parler, parce que ça reste que c'est un sujet d'actualité presque à chaque émission. Mais merci d'avoir pris le temps de le dire dans tes mots, Benjamin. On s'en va en musique avec Jerry Boulet et on revient. Et là, ben, je te la pose la question avant. Mais malgré tous ces enjeux-là qu'on vient de passer 2 blocs, là, qu'est-ce qui fait qu'on continue à y croire puis qu'on continue d'être dans l'action communautaire autonome?
La réponse dans quelques minutes.
Exactement.
...98.9 à Saint-Michel-des-Saints. Une propriété collective 100% lanaudoise.
Je m'assois, je lève les yeux au ciel, la voici, je la vois. Elle arrive en flottant, comme viennent les anges, en jouant de ses ailes, et elle perce le ciel. Elle renverse mes silences, fait siffler les étoiles. Mon soleil de mes nuits, tout au long de la nuit. Elle m'invente la mer, elle me roule sur ses vagues. Elle se couche à mes pieds, elle me vire à l'envers.
Yeah. parfum de feu.
On revient en studio avec Benjamin. Je te posais la question juste avant la chanson de Jerry Boulet. Qu'est-ce qui fait qu'on continue? Pourquoi, malgré ces grises-là, malgré les enjeux dans l'organisme, ben t'es encore là, puis il y a cette flamme-là qui t'habite?
Ben, je pense que... T'sais, là, je fais souvent un portrait noir là, de la situation, puis je pense qu'on est beaucoup là dans les organismes à avoir une vision comme noircie là, de les conditions de vie s'aggravent, le coût de la vie augmente, il y a plein de problématiques qui s'accentuent là. Mais ce que je me dis souvent là, c'est que l'heure la plus sombre, l'heure la plus froide dans la nuit, c'est toujours juste avant l'aube. Fait que j'ai un espoir. Puis tu sais, j'avais beaucoup de réflexions là, on était en train de se parler là pendant qu'il y avait la musique là, de nos trajets en voiture là pendant lesquels on réfléchit. Là, puis, je réfléchissais beaucoup là sur l'espoir. Là, on a eu nos deux semaines de mobilisation là. Puis tu sais, moi je suis petit-fils de résistant là. Puis je me questionnais beaucoup là-dessus là, sur tu sais quand ma famille on commençait à résister contre la plus grande armée mondiale que en tout cas que le monde avait jamais vu là, comme l'armée nazie. C'était des petits paysans là, tu sais, qui avaient comme deux trois fusils là, puis comme quelques contacts. Il y avait pas beaucoup d'espoir là, face à ça. Comme la moitié de l'Europe était déjà tombée, l'Angleterre elle est tombée, les États-Unis faisaient rien là. Puis on dirait que j'ai réfléchi dernièrement être comme mais c'était peut-être pas l'espoir en fait qu'ils avaient, mais c'est comme une certaine façon pas le choix. C'est des valeurs qu'on porte et on pourrait pas se sentir bien si on continuait pas là. Puis je pense qu'à un moment c'est une question de valeurs puis de principes. Je pense que le sentiment là le plus fort chez moi c'est la justice ou le sentiment d'injustice que ça vient toucher là.
Intéressant. Ben puis c'est important parce que moi c'est ça que ça m'a donné de me retrouver avec 10 000 artisans communautaires autonomes à Québec, tu sais, de se dire ben malgré tous les enjeux, malgré les conditions qui sont améliorées, on y croit, on veut aussi. Oui. Puis je pense que c'est quand on collectivise aussi qu'on se rend compte que c'est moins lourd.
Oui.
Puis c'est ça qui est arrivé là dans les dernières semaines, de se dire ben retrouvons-nous comme mouvement, ça donne de l'espoir aussi.
Oui, vraiment d'avoir le partage. Ben on en parlait aussi là tantôt là, c'était une travailleuse du centre de femmes de Montcalm, je pense là. Oui. Je m'excuse si je me trompe là, mais qui me disait on faisait la joke là, t'es on n'est pas à bout là, on est en tabarnak là. Puis elle était comme ben tu sais moi je suis à bout puis je suis en tabarnak, puis je suis en tabarnak puis je suis à bout là. Puis je trouvais que ça faisait du bien d'en parler collectivement de ce truc là. C'est comme on est des personnes motivées, on y croit, on est engagé là, mais au bout d'un moment on s'épuise. Puis on s'épuise pas parce que on n'est pas capable de gérer,
non, pas du
parce
tout.
Qu'on a besoin d'un petit guide du sus là, puis d'un petit paquet de pilules là.
Non,
mais parce que comme c'est principalement, puis ça revient toujours un peu à ça, c'est les bailleurs de fonds aussi, au moment qui nous épuisent. Là, tu sais, la course qu'on parlait aux subventions, ouais, à la reddition de comptes qui se fait de plus en plus serrée, ça nous épuise au bout d'un moment. Fait que de le partager, je trouve que ça fait tellement du bien. Et puis, c'est ce qu'on a vu dans les deux dernières semaines.
Ah oui, vraiment. Benjamin, c'était un plaisir de te recevoir à l'émission.
Ben, merci à toi.
Je t'ai dit, on va se reparler. On n'a pas abordé tout ce qu'on peut faire aussi par rapport à ces enjeux-là. Puis je sais vraiment à ce que, en tout cas, la porte est ouverte du studio.
Est-ce que je peux faire quelques petites annonces?
Ben oui, absolument.
Oui, on a de la mobilisation là qui s'en vient. Fait que je vous annonce que le 17 avril à 10h, on va aller visiter Caroline Proulx à Lavaltrie. On va faire un petit flash mob pour s'opposer au projet de loi 20. Là. Aussi, on a la grande mobilisation de la journée des locataires le 24 avril. On va partir en bus du col, du carrefour des organismes, pour s'en venir jusqu'à Longueuil. Fait que si vous voulez embarquer avec nous, vous appelez au 450-394-1778.
Merci Benjamin, à la prochaine.
Bye.